me dites que j'invente des mots, vous noterez que ce sont toujours des mots que personne ne connaît, mais que personne ne connaîtrait si je mettais les vrais mots également. Car au fond, personne ne sait le nom des fleurs qu'il y a dans le jardin le plus simple.
De la poésie des fleurs sauvages et du rôle des nénuphars dans la vie ou la mort, le cœur de Boris Vian s'est arrêté il y a très exactement 60 ans. Mais la légende de Saint-Germain-des-Prés reste vivace et ses romans, L'écume des jours ou L'arrache-cœur, en assurent la postérité. Pour relire Vian, revivre cette période de l'après-guerre, rien de mieux en tout cas qu'une biographie. Et c'est ce que nous allons faire avec Valère-Marie Marchand. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez donc consacré une biographie, à peu près 400 pages à Boris Vian. On peut dire que le personnage est séduisant.
Oui, il a une grande séduction, mais il peut être aussi très déstabilisant. Vian, c'est quelqu'un qui, à la fois dans la séduction, dans la transversalité, dans l'interrogation et dans... C'est très particulier, Vian. Je dirais que c'était un créateur de cocktails et qu'il a créé le cocktail de sa propre vie. Alors, je ne sais pas quels sont les ingrédients. Moi-même, j'ai travaillé sur sa vie. Mais il y a quelque chose, c'est comme un ovni. Enfin, il y a... C'est un peu l'homme du troisième type, il est insaisissable tout en étant dans l'essentiel.
Il avait des rayons X dans les yeux, dit Juliette Gréco à son propos.
Ouais,
ça devait être quelque chose quand même de le croiser.
C'était quelque chose de le croiser, j'ai pour ça que Vian c'était quelqu'un, d'abord c'était une oreille, il avait l'oreille absolue. C'est pour ça que j'ai tenu, pour écrire cette biographie, d'être à l'écoute de toutes les voix. Nous sommes ici à la radio et j'ai tenu de recueillir toutes les voix qui ont fait la voix de Boris Vian. V-O-I-X, V-O-I-E. Et Juliette Gréco, quand j'ai recueilli son témoignage, c'était un témoignage d'abord impeccable, c'est un magnifique témoignage, presque écrit. Et Vian avait cette capacité de vous faire naître. Il y a des êtres comme ça que vous croisez et vous ne savez pas pourquoi. Alors soit ils ont des rayons X dans les yeux, soit ils en ont pas, mais ils vous font naître, ils vous font être ce que vous êtes et vous en souvenez. Longtemps.
Si l'on parle de Gréco, c'est que bien évidemment, Boris Vian fait partie de cette légende de Saint-Germain-des-Prés dans les années d'après-guerre, années où s'est forgée la légende de Saint-Germain. Et il en est peut-être pas le créateur, mais il est un des piliers de cette légende. Il joue du jazz dans les caves, il fréquente les cafés, il séduit les jeunes femmes. L'une d'elles l'appelle, en jouant sur les mots, le beau risque vivant. Je trouve ça formidable, Boris Vian, le beau risque vivant, et il est au cœur du chaudron, j'ai envie de dire, de cette créativité des années 45-50.
Oui, bah il a eu 20 ans en 1940, il est plutôt un enfant de Montmartre finalement, enfin il n'est pas un enfant de Montmartre, de Ville d'Avray, il loge donc rue du Faubourg-Poissonnière, et puis c'est Saint-Germain-des-Prés, le tabou, la découverte du tabou avec Juliette Gréco, qui avait mis son manteau comme ça, le manteau a tombé dans cette fameuse cave du tabou, tout ça se fait dans une atmosphère très bonne enfant. Vian découvrira par exemple Pierre Grimblat qui faisait un peu la manche. Il lui dit tu sais pas chez qui loger ce soir, viens chez moi rue du Faubourg Poissonnière. Donc c'est à la fois Saint-Germain-des-Prés, je dirais que c'est un certain Paris. Et c'est une jeunesse d'après-guerre après, parce que bon, il faut. C'est un bonheur de vivre et d'écouter et de laisser de capter l'instant.
Et est-ce que c'est pour cette raison, finalement, qu'il y a une vie extraordinaire de la parole de Vian? Il a le goût des formules, il aime les farces, il aime le loufoque. Et d'ailleurs, le titre complet de votre autobiographie, Valère-Marie Marchand, c'est « Boris Vian, le sourire créateur ».
Oui, parce que, d'ailleurs, Juliette Gréco en parle de ce fameux sourire. Lui-même va interpréter un rôle dans un film de Jean Suyeux, de professeur de sourire, et... On le compare parfois à la Joconde, parce qu'il va aussi faire une figuration dans un film ayant attrait à la Joconde. Il y a un mystère, Boris Vian. Le sourire, c'est pas le rire. Le sourire, c'est à mi-chemin. Et quand il jouait de la trompette, il jouait sur le bord des lèvres. C'est-à-dire qu'il n'était pas, voilà. C'est un homme, je vous dis, qui est dans la nuance, qui est dans ce presque un pas de côté, Vian. C'est quelqu'un qui est là sans être là, mais qui est décisif à l'instant où on le voit. Il ouvre des parenthèses, de parenthèses de vie. Et ce fameux sourire, oui, il est plus que présent, le sourire créateur, parce que c'est un créatif. C'est ça qui m'a fasciné.
C'est un créatif, diriez-vous que c'est un auteur mineur ou majeur ? Parce que vous ne tranchez pas tout à fait en disant d'une certaine façon que c'est un auteur singulier qui est dans une période historique très particulière, c'est-à-dire la fin de la guerre, vous venez de le dire, il a 20 ans en 1940, et il meurt quelques années avant la révolution de 68. Et dans cette période-là, il bouscule la langue, il bouscule les normes. Est-il un grand auteur ?
Oui, je pense qu'il est un... Alors, tout dépend de la définition qu'on vous accordez au grand auteur, avec un A majuscule. Boris Vian pouvait aimer les minuscules. C'était un artisan du verbe, un homme orchestre. Et un homme orchestre, qu'est-ce que vous voulez ? Je pense qu'il est un grand auteur. Quand vous pensez quand même que l'écume des jours... Je sais pas, il y a Chloé Delhomme, il y a des compositeurs qui se sont inspirés. Vous êtes un grand auteur quand on s'inspire de votre écriture. Et à partir de ce moment-là, vous vivez. Il a écrit 500 chansons. C'est de la poésie. Donc, Vian, rien que le titre, j'irai cracher sur vos tombes, on va en parler tout à l'heure, ou l'écume des jours, rien que les titres, vous, bien sûr que c'est un grand auteur, c'est un écrivain, mais c'est plus aussi.
Il écrira une dizaine de romans, vous en avez cité quelques-uns, avec des succès divers quand même, des nouvelles, du théâtre, des essais, beaucoup de chroniques de jazz parce qu'il est trompettiste et il adore le jazz. Il fait partie de ceux qui apportent d'ailleurs le jazz en France juste dans l'après-guerre. Il traduit des romans de l'anglais vers le français et puis il écrit en effet des chansons. Et cela, pendant presque toute sa vie, il n'arrête pas d'écrire.
Il n'arrête pas d'écrire, il n'arrête pas de créer. Il fait aussi des revues de presse pour des revues de jazz. Il fait aussi des fausses unes, des canulars. Il fait des collages. Il peint. Il prend sa guitare lyre. La guitare lyre était un instrument fabriqué par Alain Vian, son frère, parce que c'est toute une famille de créateurs. Mais lui, c'est le plus créatif, on peut dire. Bref, c'est un homme qui est en perpétuelle poésie de la vie. C'est quelqu'un qui crée, mais aussi pour gagner sa vie. Il faut quand même le souligner qu'il était dans une grande précarité. Il a abandonné donc un emploi aux papeteries, dans les papeteries de Brousse. Après, il a abandonné aussi, il était à la FNOR. Quand vous pensez que Vian a travaillé pour la normalisation, enfin, c'est un gag.
Oui, l'Agence française de normalisation. Ouais. Il commence sa carrière là, c'est en effet, ça ressemble à un gag.
C'est un gag. Et toute sa vie, c'est ça.
Lui qui a si peu aimé la norme.
Oui, il passe son temps à trans. Il a un côté transgressif, mais en même temps, il a une grande douceur. C'est pas le transgressif, voyez, violent, c'est pas ça. C'est autre chose d'indéfinissable qui s'appelle Boris Vian.
Et il a l'humour quand même assez caustique. 1954, il monte pour la première fois sur scène dans un cabaret qui s'appelait la Fontaine des Quatre Saisons à Paris. Et il interprète, entre autres, cette chanson.
Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, trois celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça, j'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher, je suis snob. C'est Bat, je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, au nom comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. On se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes parties. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retournée. De l'autre côté, c'est passionnant, je suis snob.
Boris Vian dans ses œuvres sur RFI, alors que l'on retrace avec sa biographe Valère-Marie Marchand à la fois son histoire et son rapport à la langue, qui est en soi toute l'histoire de Boris Vian, parce que il est écrivain du soir au matin. Et alors vous racontez qu'il n'a jamais eu de bureau d'écrivain.
Non. Et par contre, il a passé son temps à réaménager. C'est un bricoleur, Vian. Donc, il passe son temps à bricoler des étagères, à faire des inventions, à repenser, restructurer son espace.
Oui, il a un atelier de bricolage. Oui. Il vit cité Véron, derrière le Moulin Rouge, et un tout petit deux pièces, etc. Et il crée dans ce deux pièces un atelier de bricolage. Ça en dit long, quand même.
Oui, et pas que. Il crée même une sorte de mezzanine à l'époque. Enfin, c'est quand vous allez cité Véron, on peut visiter, hein, quand même. Je pense sur rendez-vous. C'est Nicole Berthold qui s'en occupe. Et donc c'est un appartement conçu, mais ça dénote bien son esprit, entièrement conçu par lui, pas au millimètre près, mais c'est tout comme. Tout est création, ça va de la cuisine à la mezzanine. Alors, il a un ami qui s'appelle Yves Gilbert, qui est tout petit, et qui lui pose souvent des questions complètement surprenantes. Alors un jour il lui dit, bah tu m'amènes une grande table, et Vian lui dit, ah non, mais il répond pas. Alors, Guibert dit, tu m'amènes une grande table. Ben non, il répond toujours pas. Il lui dit, ben écoute, t'es con ou quoi? Parce que moi, quand on me dit une grande table, faut donner la dimension exacte. Donc c'est quand même un ingénieur. C'est pour ça que je parle d'ingénieur S-lettre. Et quand il fait cette fameuse mezzanine, on se dit, mais comment on va dormir? Mais tout est conçu, tout est créé. Il a un soin, il y a quand même... c'est une grande complexité, Vian. Et aussi pas forcément... Vous voyez la chanson qu'on vient d'écouter? Il y a de la nonchalance, il y a la porte ouverte aussi, voilà. C'est le mot que je cherchais.
Vous dites ingénieur S-lettres, c'est en effet un des chapitres de votre biographie, parce qu'il a fait aussi l'école centrale, donc il est ingénieur de formation, mais c'est aussi un inventeur de langue, un ingénieur de la langue. Qu'est-ce qu'il invente davantage, les mots ou les choses?
Les deux.
Ensemble.
Les deux.
Il y a une anecdote que vous racontez ou un mot que vous proposez qui est le peignophone.
Oui.
Ça m'a beaucoup amusé.
Oui, ça c'était au lycée Condorcet. Donc c'était un peigne avec une sorte de papier à cigarette. Et il s'amusait à faire rigoler tous ses camarades de classe en faisant de la musique avec le peignophone sur le pupitre au lycée Condorcet. Mais il y a d'autres inventions. Il y a la roue élastique, par exemple. Il a pensé à un système d'écluse sur rail. Alors ça, fallait quand même y penser. Il a déposé des brevets, parce qu'il avait toujours... Il y a un côté professeur tournesol chez Boris Vian, mais ça lui vient de son père. Son père a eu il avait en 1929, il avait parti des gens qui ont été ruinés en 1929, il s'est retrouvé, il était représentant de commerce, et le père de Vian, quelque part, a fait un théâtre. Vous allez à la Villa des Fauvettes, qu'on appelle un Trianon de banlieue, il y avait un petit théâtre. Et ce goût du théâtre, ce goût du bricolage lui vient de son père. Et toute sa vie, j'aime beaucoup ça parce que c'est bricoler, c'est pas que bricoler. Actuellement, on est dans l'époque du recyclage. On recompose nos vies, on fait avec. Et Vian a fait avec son... Il n'avait pas finalement, il avait un grand talent, il avait surtout une grande intelligence et il allait à l'essentiel, l'intelligence étant d'aller à l'essentiel. Lui, il allait tout de suite, je parle de la diagonale, parce que c'était un joueur d'échecs, il allait tout de suite à l'essentiel. Et donc, il a fait, pour gagner sa vie, je trouve ça, il y a un côté émouvant, parce qu'il avait toujours l'idée de se refaire, en ayant quand même la prémonition qu'il ne vivrait pas qu'il vivrait jusqu'à 40 ans, enfin 39 ans.
Ce qui a été le cas. Alors, il invente des objets, il invente des mots aussi, peut-être beaucoup plus de mots que d'objets d'ailleurs, oui. Et dans votre biographie, il y a un lexique, et ça ne trompe pas. Et c'est formidable, parce qu'en quelques pages sont condensées toutes les inventions de Vian, et aucun secteur n'est épargné. Il invente le wapiti, qui est un animal, la recette de la soupe aux biscuits de mer, ou encore la chemise chemise en zéphyr blindé. Ça, c'est pour le rayon mode. Donc vraiment, et c'est un tout petit extrait de tous les mots qu'il a inventés. On pourrait faire presque un dictionnaire Vian rien qu'avec ses inventions lexicales.
Ah bah, il y en a eu. Il y a eu des lexiques. Il faut faire des. Et il y a le mot tube. Parce qu'on disait saucisson, le tube, c'est Boris Vian avec son ami Salvador, donc tous les deux, le tube. Salvador va faire un disque avec le mot tube. Donc c'est quelqu'un, ben c'est ça un écrivain, un grand écrivain. Qu'est-ce que c'est finalement? On s'interroge. Vous mettez des majuscules, des minuscules, et puis ça varie selon les époques. C'est quelqu'un qui, un grand peintre, c'est quelqu'un qui vous fait voir la vie autrement, le visuel. Un grand écrivain, c'est qu'il vous fait lire autrement. Et Vian nous fait lire autrement, reconstitue la phrase bien avant le nouveau roman. C'est un précurseur de Pérec.
Boris Vian et la langue de son temps, archives de 1952.
Pour moi, la préoccupation la plus haute de mon temps, c'est de dénoncer les menteurs et les escrocs. Les escrocs du mot, si j'ose dire, les escrocs du verbe, c'est-à-dire les gens qui font de la démagogie verbale. En ce sens qu'il y a dans les journaux, dans tout ce qu'on peut lire partout, une espèce d'inflation verbale qui tient du discours électoral par tout ce qu'il a de pire, enfin.
Et le théâtre vous paraît un lieu où, justement, on peut réformer ce vocabulaire?
Ben, le théâtre me paraît un lieu où on peut le réformer parce que le théâtre est présenté dans des conditions qui font que ça prend une assez grande portée. J'ai été surpris, toutes les fois que j'ai fait passer des textes en public, j'ai été surpris de voir que des choses qui, moi, me paraissent insignifiantes sur le papier prennent un relief effrayant sur une scène. J'en ai donc conclu que la scène est un bon moyen de cadrage du mot, si vous voulez, au sens où un cadre peut exalter une peinture.
Boris Vian, en parlant du théâtre, pour autant, bon, ses pièces ne sont pas restées très vives dans les mémoires, dit d'ailleurs sur les scènes actuelles, parce qu'à ma connaissance, personne ou presque ne joue les pièces de théâtre qu'il a écrites. Mais ce qui est intéressant, c'est son rapport à la parole. Car en fait, vous l'écrivez dans votre biographie, Valère-Marie Marchand, son rapport à la parole, en fait, est lié à un style déjà existant, ce que vous appelez un creuset verbal existant, et il considère finalement que la littérature ne peut pas se réduire à sa forme écrite, qu'elle dépasse finalement la page.
Bien sûr, elle dépasse la page. Vous avez qu'à voir les troubadours, les ancêtres des paroliers. Vian était un parolier, et je trouve ça, c'est très intéressant de créer, de sortir un livre que vous lisez. Il existe bien après que vous l'ayez lu. Moi, j'ai le souvenir de L'écume des jours, de la couverture de L'écume des jours qui était dans la bibliothèque de mes parents. Mais après, est-ce que je l'ai relu suffisamment? Qu'est-ce qu'il m'en reste? Un souvenir, un parfum, une essence. Vian avait parfaitement conscience de ça, de cette subtilité-là, de cette parenthèse-là. C'est-à-dire, vous pouvez être un grand poète, et je pense que la chanson, c'est de la poésie. Il a écrit 500 chansons, je le répète. Beaucoup de chansons, les poésies de Vian sont vraiment à redécouvrir, c'est absolument magnifique, il avait l'art du bref. Le romancier, on aime, on n'aime pas. C'est très... Moi, j'aime bien, par contre, l'automne à Pékin. Bon, il y en a quand même l'herbe rouge. L'écume des jours, c'est variable. C'est selon les... C'est selon... Parce que il est prisonnier de sa génération aussi.
En tout cas, l'écume des jours que vous citez, c'est son deuxième roman. Et c'est avec ce livre-là qu'il va devenir célèbre, d'une certaine façon. Il l'écrit à 26 ans, en 3 mois, à l'encre bleue, au dos des formulaires de l'AFNOR. Hein, je ne fais que vous citer, parce que je n'ai pas ce savoir. C'est vous qui me l'avez donné. Et c'est à la fois un succès et puis la référence encore aujourd'hui. Moi, je me souviens que c'est le premier livre que j'ai pu lire de Boris Vian. J'en ai pas forcément lu des quantités depuis. C'est un conte fantastique et c'est une histoire d'amour.
C'est une histoire d'amour, c'est sa propre histoire. Le nénuphar, c'est son cœur.
Parce que Chloé, la jeune fille.
Chloé, la jeune fille, c'est Michel.
Un nénuphar dans le poumon.
Voilà, alors il a interverti en fait. En fait, il a écrit cette histoire par rapport à Michel Vian qui avait. Elle attendait leur premier enfant. Ça a été écrit à Saint-Jean-de-Mont. Et elle avait une thyroïdite. Donc, pour passer le temps, il a écrit L'écume des jours. Il faut dire que tout ça, ça a été fait en 46. En même temps, après, il a écrit donc J'irai cracher sur vos tombes. Donc, sa période créative littéraire est très brève, très intense. et il fait pour raconter une histoire, et ça je trouve ça assez beau. Et puis il y a un troisième personnage aussi, bien sûr, le troisième c'était son, qui est aussi dans le roman, mais c'était son ami le major, donc il a toujours un copain qui passe par là, et cette camaraderie de Vian m'a aussi séduite, parce que il y a l'amour, il y a la menace de la mort, il y a le cœur, il y a cet inconnu dans le cœur, et il y a la camaraderie, il y a quelque chose comme ça. C'était un frère, hein, Vian. C'est, il a eu deux frères très importants pour lui, plus une sœur. Donc c'est ce côté-là de... Oui, de... Et avec Michel, il a eu une sorte de... C'était un amour fraternel. Voilà, c'est ce que je pourrais en dire.
Michel, qui est sa première femme, avec qui il va avoir deux enfants, et qui va l'initier notamment à la littérature anglo-saxonne, et qui va le pousser à traduire, elle traduit, et lui aussi va traduire des romans anglo-saxons. Alors c'est vrai que Vian est au cœur du Paris intellectuel des années 40, il est ami avec Sartre, avec Beauvoir, Cocteau, Gréco, on en a parlé, et Raymond Queneau. Alors Queneau, c'est Zazie dans le métro, si on doit citer son roman le plus célèbre, c'est aussi le fondateur de l'Oulipo, là aussi, mouvement littéraire qui a continuellement joué avec les contraintes et avec les mots. Et c'est un peu le père spirituel de Vian, en tout cas un admirateur de l'écume des jours.
C'est un roman d'amour et c'est même, à mon avis, l'un des plus poignants romans d'amour contemporains. Au fond, il n'y a pas tellement de romans d'amour dans la littérature contemporaine. Et l'écume des jours en est un, particulièrement pathétique, particulièrement émouvant. Dans la préface, Boris Vian s'est expliqué, il dit en effet dans l'avant-propos de l'écume des jours, « L'histoire est entièrement vraie, puisque je l'ai imaginée d'un bout à l'autre. » Et d'ailleurs, dans la préface à Vert Coquin et le Plancton, il disait aussi, « Ce n'est pas un roman réaliste, en sens que tout ce que l'on y raconte s'est réellement produit. »
Queneau qui, comme Vian, déclare dans les années 40 la sclérose de la culture écrite, et ce qu'il dit, Valère-Marie Marchand, est assez juste. Ce qu'il dit de Vian, cette frontière, ce que vous essayez d'ailleurs de raconter depuis le début de cette émission et dans ce livre, la frontière entre la fiction et le réel, en fait.
Oui, et puis...
Au profit de l'imagination.
Au profit d'une troisième voie, qui est l'imaginaire, qui est aussi l'intelligence de la vie, qui est autre chose. Par exemple, là, j'ai sous les yeux, vous pensez, pour le premier roman de Vian, Queneau était un ami, de relation, bref, il lui envoie son premier roman sur, il lui écrit une lettre sur des lignes de partitions musicales. Tout le ton y est, c'est là, c'est la musique, c'est être aussi beau joueur, parce que Vian, il a souvent perdu, et puis il a gagné un tout petit peu, et il a rejoué, il y a un côté joueur, il y a un côté je renvoie la balle. Et Queneau, qui était un homme très modeste, je pense que c'est ce qui les a rapprochés. Parce que finalement, Vian, contrairement aux apparences, est un homme de l'ombre, et Queneau aussi. Et il a senti, parce que Queneau s'est senti reconnu par Vian. C'est très étrange, ils allaient tous les deux dans le Paris un peu du 13e arrondissement en douce, ils avaient des escapades comme ça, tout à fait buissonnières dans ce Paris-là. Et c'était un homme mûr, mature, mais il a 20 ans de plus que lui, il n'avait pas, j'allais dire, cette photogénie de Vian, je le dis parce que ça joue aussi, et il s'est senti reconnu par Vian, et Vian s'est sauté. C'est une très belle histoire entre Queneau et Vian. Ils sont tous les deux créateurs, et Queneau, c'est l'homme de l'encyclopédie et de l'Oulipo, quelque part.
Avec Queneau, il y a aussi l'aventure du collège de pataphysique, qui est une sorte de, je vais pas dire secte, mais un petit peu quand même, d'inventeur en littérature et en art, qui fait, ça c'est la charte quasiment du collège de pataphysique, des recherches savantes et inutiles. Donc, initiée par Alfred Jarry, où l'on croise Léry, Sionesco, Jacques Prévert, etc. Et c'est d'ailleurs au sein de ce collège que Vian gagne le titre d'écarisseur de la langue.
Ouais.
Et ça, est-ce que ce n'est pas finalement la plus belle chose qui le caractérise?
Pas forcément, non, je crois pas que ça soit finalement... L'écarissage, il y a une pièce de théâtre, etc. Vian, c'est un sculpteur de mots. Le carissage, c'est dur, hein, quand même. Mais c'est vrai qu'il écrit à vif. Ça, c'est vrai. Il écrit à vif dans la chair du mot. Le collège de pataphysique, c'est très important pour lui. Ça va être sa dernière joie, puisque le 11 juin 1959, il y a une fête qui est donnée, Cité Véron, où il y a le voisin, il y a quand même Prévert, hein, faut quand même le dire aux auditeurs. Jacques Prévert est à côté. Tout le collège de pataphysique va venir pour sacrer le baron Mollet. Et le baron Mollet, qui sait, c'était le secrétaire d'Apollinaire. Donc, Vian va chercher ses sœurs. Première femme, les verres à champagne de Ville d'Avray pour ses amis, pour fêter. C'est un peu comme le douanier Rousseau avec Picasso. L'intronisation du... Voilà, c'est toute une époque. Hein.
Alors, si l'on doit parler, mais malheureusement le temps file, d'un autre texte important dans l'œuvre et la vie de Vian, c'est, mais on l'a cité déjà, hein, c'est « J'irai cracher sur vos tombes », qui est un roman sur le racisme aux États-Unis, un roman quasi américain, et qu'il publie sous pseudo, et ça va être quand même une grande affaire dans la vie de Vian.
Oui, voilà, c'est 46, là aussi c'est un canular, au départ c'est un canular, donc il a écrit L'écume des jours, il se trouve aussi en vacances, et avec Michèle Vian, qui est une traductrice et une anglophile très très pointue, il pense écrire un roman noir, enfin un roman noir policier. Et elle, c'est Michèle Vian qui lui a suggéré le titre « J'irai cracher sur vos tombes », Avant, je crois que c'est « J'irai danser sur vos tombes ». C'est un petit peu différent.
C'est moins violent.
C'est moins violent. Et donc, cette violence-là va être terrible. Parce que finalement, Vian, c'est un peu, vous savez, le marquis de Carabas. Il est pris au mot. Il est pris au mot par ses propres créations verbales. Malheureusement, il va être attaqué par le cartel d'Action sociale. Et puis, plus grave encore, il va y avoir un crime. Donc, plus tard, on va retrouver un exemplaire de « J'irai cracher sur vos tombes » à côté du cadavre de cette femme. Donc, Vian aurait-il, si vous voulez, fait un meurtre par procuration? Non. Sa femme, Michèle Vian, voulait pas, surtout n'avoue pas, on est en plein roman policier, surtout tu dis rien. Pontalis commence à s'inquiéter. Vian, voulant bien faire, va faire un faux manuscrit anglais.
Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il signe ce livre de nom de Vernon Sullivan et dit qu'il est le traducteur de cet auteur américain inconnu, et il ne voudra jamais avouer, ou presque, donc tout le monde trouve qu'il y a anguille sous roche. Et ce livre aura un rôle important aussi dans les derniers jours, les dernières heures de Vian, puisque Michel Gast fait une adaptation pour le cinéma de « J'irai cracher sur vos tombes ».
Hey, fais attention, Johnny. Son nerveux en ville.
Je l'aime et elle m'aime. Ils ne peuvent rien contre ça.
Rappelle-toi nos grands-parents. Si tu ne peux pas te passer d'elle, il faut quitter ma fille.
Partout, elle serait une blanche et moi un noir. Si j'étais comme toi, je passerais la ligne.
Pas jamais la ligne.
Ne jamais passer la ligne. Film que Vian ne verra jamais dans sa totalité, car il meurt à 39 ans devant l'écran de cinéma du Petit Marbeuf, en voyant justement l'adaptation de son roman. Et là, sa mort n'est pas une farce.
Non. Et il le voit au moment où il voit justement son nom comme traducteur de Vernon Sullivan. Mais c'est très étonnant, il a écrit dans son agenda, il a noté 10 heures au Petit Marbeuf, qui était un ancien bowling, j'irai cracher. C'est bizarre. J'irai cracher. Donc il meurt là, dans cet ancien bowling où il y a tous ses amis qui l'accompagnent et qui vont il va mourir entre ce Petit Marbeuf et l'hôpital Laennec. Il avait dit à Ursula, oh t'inquiète pas, c'est la corvée. Donc il en avait marre. Vian sentait déjà que la page allait se tourner. Il en avait marre de ça. Il faut dire qu'on lui avait demandé 100 000 francs de l'époque. Ça l'a ruiné, cette histoire. Ça l'a enrichi et ruiné.
En tout cas, il meurt en éternel jeune homme séducteur de Paris et des lettres.
Oui, et surtout en poète, je pense. Et le jour de son enterrement, il y avait une grève des croque-morts, comme quoi les poètes ne sont pas prêts de disparaître.
Merci Valère-Marie Marchand. Votre biographie Boris Vian, le sourire créateur, est publiée aux éditions Écriture. Pascal Paradou à la présentation, programmation Louise Caléda, Guillaume Ploquin à la réalisation. Demain, vous retrouverez à cette même heure Littérature sans frontières.